Pierre-Antoine Fabre, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez dirigé pendant 10 ans le Centre d'anthropologie religieuse européenne. Vous présidez la Société internationale d'études jésuites et vous êtes le directeur de la revue Archives de sciences sociales des religions. Vous vous intéressez donc de près aux religions et vous vous intéressez aussi de près aux jésuites. Pourquoi ?
Eh bien, par une voie qui pourra paraître inattendu. J'avais fait un travail de maîtrise avec Paul Ricoeur sur le problème de l'imagination dans l'idéalisme allemand et que parallèlement je m'intéressais de plus en plus à une œuvre de peinture qui m'apparaissait comme peut-être la plus proche de ce qui pouvait correspondre à ce que Kant appelle une image schématique, c'est-à-dire la tentative de constituer ou de construire une image fondamentale qui était l'œuvre du Caravage. Et commençant un travail de doctorat sur le Caravage, qui était donc ma préoccupation, comme philosophe et esthéticien d'une certaine façon, j'ai tout d'un coup découvert que je ne savais rien de rien, mais en particulier rien de la Compagnie de Jésus, alors même que j'étais tout à fait surpris en lisant un certain nombre de textes sur le Caravage, beaucoup moins qu'il n'y en a maintenant, puisque le Caravage est beaucoup plus connu maintenant qu'il n'était il y a 30 ans, mais je m'étonnais de ce constat que le Caravage, tout en étant indiqué comme très proche de la spiritualité de la première Compagnie de Jésus, n'avait jamais travaillé pour les jésuites. C'est une question qui m'a porté d'abord à m'interroger sur ce que c'était que cette Compagnie de Jésus, dont je ne savais rien, de ce que c'était que les exercices spirituels, dont le problème de l'imagination était le foyer central. Et c'est ce travail-là qui finalement m'a porté progressivement d'abord à faire un doctorat sur le Caravage et Ignace de Loyola, qui finalement n'a été que sur Ignace de Loyola, qui finalement n'a été que sur les exercices spirituels, qui n'a été que sur la composition de lieux dans les exercices spirituels, qui m'était progressivement apparu comme le foyer le plus intensif de cette spiritualité. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Et comme les exercices spirituels étaient véritablement le foyer d'engendrement de la Compagnie de Jésus, je me suis progressivement intéressé à la Compagnie de Jésus, comme on s'intéresse à l'arbre après s'être intéressé aux racines. En particulier parce que finalement j'étais philosophe de départ et que je n'avais nul désir de devenir un historien spécialiste en quelque sorte. Et qu'au fond pour moi sans doute que m'intéresser à la Compagnie de Jésus c'était continuer de m'intéresser à l'universel. Non seulement parce que la Compagnie de Jésus a une ambition universelle, mais parce que c'était le moyen finalement de m'intéresser aussi bien à l'art qu'à la spiritualité, qu'à la théologie, qu'à la politique, qu'à la diplomatie, qu'à la prédication, qu'aux missions, à l'apostolat sous toutes ses formes, aux sociétés modernes, hein, qu'elles soient européennes ou non européennes. Et au fond, pour moi, c'était peut-être par d'autres moyens, la meilleure manière de continuer d'être un peu philosophe.
Pierre-Antoine Fabre, vous avez cité tout à l'heure le lieu de votre thèse de doctorat, le lieu spirituel. Ce qui vous intéresse, c'est où l'on se trouve quand on fait les exercices spirituels et son rapport avec l'imagination.
Le problème qui était le mien à ce moment-là, et qui est d'ailleurs toujours le mien, c'était de comprendre d'une part comment Ignace de Loyola, tout en accordant une place centrale à l'imagination et à ce qu'il appelle la composition de lieu dans les préambules des exercices spirituels, c'est-à-dire comment imaginer les scènes de l'Évangile, ces scènes évangéliques qui sont aussi celles que Caravage tentait à la même époque de faire revivre d'une certaine façon, c'était tâcher de comprendre cela. Pourquoi est-ce qu'Ignace de Loyola, dans une première période, se tient finalement très loin des images matérielles? Pourquoi est-ce qu'il pense que l'imagination doit travailler seule? Pourquoi est-ce que progressivement une politique artistique jésuite se dessine? Et comment finalement vont s'articuler ce travail de l'imagination et cette pratique de l'image? Comment médite-t-on devant une image par l'imagination?
Vous avez employé tout à l'heure le mot d'universel, Pierre-Antoine Fabre, et dans cet universel, vous avez parlé de la vocation jésuite, vous intéressez à l'imagination, mais cette imagination, elle a aussi un autre lieu universel qui est le corps. Vous allez aussi parler des larmes, et puis parfois vous parlez aussi d'émotions. Comment en êtes-vous venu à, comme historien, comme philosophe, comme chercheur, à vous intéresser à toute cette partie universelle qui est le corps?
Ça, je pourrais vous répondre de deux manières différentes. D'une part, parce qu'il est évidemment, pour moi, totalement, tout à la fois évident et extrêmement difficile à comprendre. C'est le fait que l'image passe par le corps, que précisément là où peuvent s'articuler l'image matérielle et l'activité de l'imagination, c'est que l'image matérielle est en permanence transformée, en quelque sorte, par ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'ai reçu une image, et que du coup cette image n'est plus seulement matérielle, mais qu'elle devient une partie de moi-même, et une partie de moi-même comme corps percevant, c'est-à-dire une partie de moi-même comme corps. Donc d'une certaine manière, à partir du moment où il y a un œil et une image, il y a un corps tout à la fois passif et actif, hein, qui transforme ce qu'il voit. Et puis d'autre part, pour répondre par une autre voie à cette notion même d'universel, l'un des aspects qui m'intéresse le plus, c'est précisément d'essayer de comprendre le sens de la culture de l'image dans toute l'activité apostolique universelle de la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire comment est-ce que, précisément, comme vous le dites, tous les hommes ont un corps, tous ces corps d'hommes voient des images. Je suis convaincu que pas un homme ne voit la même image qu'un autre, mais en même temps, ces corps en quelque sorte se retrouve autour d'une image. Et je crois que la place de l'image dans toute l'activité, très simplement l'activité missionnaire de la Compagnie de Jésus, c'est précisément faire en sorte que les hommes se retrouvent autour d'une image, même si cette image se trouve à chaque moment transformée dans chacun d'eux comme nulle part ailleurs.
Et les larmes? Est-ce que c'est l'image qui produit les larmes?
Entre les larmes et le regard, il y a quelque chose de commun et d'essentiel, c'est l'œil.
Oui.
Et c'est quelque chose que Ignace de Loyola a bien compris, ou en tout cas bien vécu, puisque son journal d'émotions intérieures, et c'est un des aspects qui m'avait le plus intéressé, c'est le fait précisément que cet œil est constamment partagé, hein, entre les larmes et les visions. Il y a une solidarité profonde entre des larmes qui en quelque sorte font le vide dans le regard, parce qu'on ne voit plus rien, et puis quelque chose comme la vision qui vient habiter ce rien qui a été fait dans l'œil. Donc je pense qu'il y a cette solidarité par l'œil, d'où le fait que là, le corps est absolument là.
Pierre-Antoine Fabre, quand on a étudié comme ça pendant une trentaine d'années tous ces sujets, comment est-on transformé? Est-ce que votre vision est transformée?
Là, il y a vraiment deux aspects très différents. Il y a un aspect que je dirais dans la chance que j'ai eue très, très, très grande, non seulement de commencer à travailler avec Michel de Certeau, mais de continuer à travailler avec Louis Marin après 86, après la mort de Michel de Certeau.
Deux mots sur Louis Marin.
Et Louis Marin qui, pour moi, a été absolument décisif, parce que Louis Marin a quelque chose que personne d'autre, je crois, n'a eu dans cette période, c'est d'être tout à la fois un homme des images et un homme des textes. Et pour moi, c'était décisif, puisque précisément le problème qui était le mien, c'est-à-dire de savoir comment articuler une culture visuelle sur une vie spirituelle dont je n'avais de traces que textuelles, si je n'étais pas en même temps un homme des textes et un homme des images, je ne pouvais pas avancer. Ce qui est certain aussi, c'est que depuis ce moment-là, au fond, j'ai toujours essayé de rester le plus en équilibre possible, disons, entre ces deux cultures. Entre un œil qui lit et un œil qui voit, disons, hein,
oui.
pour reprendre cet œil. Ça, c'est très important et c'est probablement quelque chose qui m'a non pas transformé en ce sens que je pense que je ne suis pas celui que je serais si je n'avais travaillé qu'avec un historien des images ou qu'avec un spécialiste des textes.
Oui.
Ça, c'est une première manière de répondre. Une autre manière de répondre, ce serait de dire que je pense que j'ai peut-être une sensibilité particulière à ce qu'on pourrait appeler, disons, un état de santé plus ou moins bon de Dieu, disons. Je dirais qu'il ne va pas toujours très bien, que j'y suis très attentif, peut-être plus que d'autres au fond, parce que vivant une grande partie de ma vie, même l'essentiel de ma vie, dans un monde entièrement habité par Dieu, eh bien ce monde-ci, ce monde d'aujourd'hui, en tant que Dieu, d'une certaine façon, ne l'habite pas entièrement, le problème de savoir quels sont les effets de cette absence, pourquoi s'est-il absenté? Pourquoi les hommes, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, l'ont absenté? Pourquoi est-ce que les hommes ont voulu vivre sans Dieu? Où est-ce qu'ils en sont maintenant de ce point de vue-là? Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et c'est des choses qui ne m'intéresseraient pas à ce point-là si je ne passais pas ma vie avec des hommes de Dieu. Et non seulement avec des hommes de Dieu du XVIe siècle, hein, mais avec des hommes de Dieu du XXIe siècle, sans être moi-même ni de formation, ni de naissance, ni de vocation, ni d'existence, un homme de Dieu. Je suis dans une sorte d'intimité particulière avec ça. Et c'est quelque chose que mon maître jésuite Maurice Giuliani, il disait quelque chose qui résumait au fond magnifiquement tout. Il me disait, entre toi et moi, il y a à la fois un abîme et l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette.
Merci Pierre-Antoine Fabre.